Apprendre au XXIe siècle avec et par la science.
Être et savoir, Louise Touret.
Être et savoir, c'est le magazine de l'éducation de France Culture. Aujourd'hui, nous conjuguons le verbe apprendre au futur. Les avancées scientifiques et les gigantesques possibilités ouvertes par les technologies vont-elles transformer les manières d'apprendre, nos manières d'apprendre ? Qu'apprendra-t-on d'ailleurs dans un monde où les fondamentaux ne suffisent plus ? Et où ? À l'école ? Sur les écrans ? Avec quels enseignants ? Et avec des enseignants d'ailleurs ? Ce futur se dessine dans l'ouvrage de François Taddei, notre invité aujourd'hui. À ses côtés, la philosophe Elena Pasquinelli, qui publie entre autres un manuel pour développer l'esprit critique grâce aux sciences. Car l'esprit critique, c'est aussi une dimension majeure dans l'éducation du futur. Apprendre au XXIe siècle, c'est évidemment un thème que nous allons explorer tout au long de l'année dans Être et Savoir, et sûrement au-delà de cette année, au-delà de cette émission, tant les enjeux de l'éducation ne cessent de se redessiner grâce aux avancées scientifiques, on l'a dit, avec la culture numérique, les enjeux culturels, sociaux, et aussi parce que les attentes de la société évoluent. Ce thème de ce qu'il faut apprendre et de comment apprendre ne faisant d'ailleurs absolument pas consensus. C'est donc le premier chapitre de nos voyages dans le futur et ça commence aujourd'hui. Nous allons parler du futur plus proche, à la fin d'Être et Savoir. Un artiste nous raconte son enfance et ses années d'apprentissage. Alors avoir une mère institutrice et savoir lire avant les autres, est-ce forcément une chance ? Le regard du musicien Florent Marché, dont la douceur des textes et la voix contrastent, vous allez le voir, avec l'aridité de l'expérience.
Que pensez-vous des moyens de transport en l'an 2000 ? Arnaud.
Mais moi je vois ça comme ça, chacun circulerait avec une sorte de capsule. Et ça, je pense que les vieux moyens de transport de l'an 2000, ça serait une auto comme ça.
Les moyens de transport seront très modernisés et on ira sur la Lune. Et aller sur la Lune, ça sera plus une grosse histoire comme en ce moment.
Moi je pense que chaque homme aura un moteur qui se mettra dans le dos pour voler.
Aller sur la Lune, c'était la grosse histoire du moment en 1969. On a entendu un extrait d'une émission qui s'appelait Dim Dam Dom. Ce sont donc des enfants qui se projettent dans le futur. Et j'ai pensé à ce genre de propos en lisant votre livre, François Taddei. Vous prévoyez, vous nous faites nous figurer des mutations des apprentissages et de l'éducation qui semblent totalement énormes, à la limite de ce qu'on peut même imaginer. Bonjour.
Bonjour.
Je précise que vous êtes ingénieur généticien au départ, spécialiste des sciences de l'apprendre et directeur du CRI, le centre de recherche interdisciplinaire qui est à Paris. Et vous publiez actuellement « Apprendre au XXIe siècle ». C'est aux éditions Kalman Lévy. Le livre sera en librairie le 19 septembre. Alors, est-ce que c'est un livre d'anticipation ? Et puis d'ailleurs, est-ce qu'on n'est pas déjà au 21e siècle, François Taddei ?
On est au 21e siècle, mais il ne fait que commencer ou en partie. Et je pense qu'il y a encore énormément de choses. Le 21e siècle est en train de s'écrire, on est en train de l'écrire. Et la manière dont on apprend, on est en train de l'écrire. Elle est déjà différente d'une bonne partie des apprentissages qu'on faisait au XXe siècle, en tout cas dans beaucoup d'environnements. Et en même temps, ces transformations ne font que commencer. On voit des prémices qui nous annoncent probablement des choses qui vont aller beaucoup plus loin que ce qu'on fait aujourd'hui.
Est-ce que ces transformations s'accélèrent ? Et vous citez plusieurs fois Paul Virilio dans votre ouvrage qui a théorisé cette accélération. C'est ce qu'on comprend aussi ?
Les technologies ont une forme de croissance exponentielle pour beaucoup d'entre elles, en particulier la puissance de calcul des machines, mais aussi aujourd'hui le développement de l'intelligence artificielle, c'est aussi le cas de la génétique, c'est le cas de la génomique, c'est le cas de beaucoup plus de sciences que jamais. Et cette accélération, on n'est pas complètement préparé à la vivre, cette croissance exponentielle de la transformation. On a déjà du mal à assumer une partie des transformations qui viennent de se produire. Est-ce qu'on est prêt à toutes celles qui s'annoncent ? Et comment est-ce qu'on se prépare à ce genre de transformation ? C'est un peu ça qu'on a essayé de discuter dans le livre.
Et là, Pasquinelli, vous êtes philosophe. mais vous intéressez beaucoup à la science. Bonjour.
Bonjour.
Vous allez nous dire si la science, mais aussi la philosophie, peut nous aider. Par science, on entend démarche scientifique.
On entend démarche scientifique, oui. Elle peut nous aider à plusieurs niveaux, à concevoir le futur de l'éducation et son présent, j'espère, nous aider, nous illuminer avec des connaissances qui grandissent, hein, comme les technologies, à propos de notre manière d'apprendre. On en sait de plus en plus, ça peut guider certains choix. Et ces avancées de la science nous disent aussi qu'on a besoin non seulement d'utiliser les sciences pour apprendre, mais d'apprendre les sciences pour les comprendre, comprendre leurs méthodes. Pourquoi leur faire confiance par rapport à d'autres opinions qui circulent, par exemple, devient un jeu fondamental de notre société.
De notre société, pas seulement dans l'éducation. Je précise que vous êtes spécialiste des sciences de la cognition, chercheur associé à l'Institut NICO, qui appartient au CNRS, à l'EHESS et à l'ENS en même temps. Et vous êtes membre de la fondation La Main à la Pâte, une fondation qui, on le rappelle, a été fondée par des scientifiques pour apprendre la démarche scientifique et par l'expérimentation aux élèves. Et vous publiez en ce moment un manuel en deux volumes, Esprit critique, Esprit scientifique. Donc ça, c'est destiné aux classes et aux enseignants. Et tout bientôt, le 19 septembre, comme François Taddeï, un ouvrage sur les écrans. Tiens, mais on va sûrement parler évidemment aujourd'hui, comment utiliser les écrans en famille. Petit guide à l'usage des parents 3.0. J'avoue que je ne sais pas ce que c'est qu'un parent 3.0, mais c'est aux éditions Odile Jacob. François Taddeï, votre livre est à la fois très personnel, c'est ce qui rend la lecture, je dois dire, assez agréable. Mais votre objectif, c'était avant tout de nous éclairer sur des innovations à venir dont on n'a pas tous entendu parler. C'est vrai qu'en ce moment, on parle beaucoup de neurosciences. Mais à vos yeux, ce qui va également beaucoup compter dans l'éducation du futur, dans notre rapport au savoir, c'est... Alors, il y a plusieurs points. On va commencer par l'intelligence artificielle. Les intelligences artificielles.
Il y a les intelligences artificielles. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a une forme de convergence entre beaucoup de technologies très différentes. Les technologies du cerveau, qui viennent des sciences cognitives, les technologies de du numérique, en particulier l'intelligence artificielle, mais aussi les technologies des nanosciences et les biotechnologies. Et donc cette convergence qu'on appelle nano-bio-info-cogno, NBIC, elle donne naissance à tout un tas de nouveautés et on n'est pas préparé à l'ensemble d'entre elles. Ça paraissait être un peu de la science-fiction, la première fois que j'en ai entendu parler il y a quelques temps, et il y a de plus en plus d'indications que ce genre de choses avance, qu'on le sache ou pas, qu'on soit prêt ou pas, et l'ensemble des implications sociétales, mais aussi éthiques, sont loin d'avoir été discutées en profondeur, et je pense que ça fait partie des choses sur lesquelles il faut que collectivement on se saisisse de ces enjeux pour se préparer à ce genre de disruption qui est en train d'arriver.
Donnez-nous des exemples de ce qu'on pourra faire avec le croisement de toutes ces sciences dont vous nous avez parlé.
Il y a par exemple des modèles animaux dans lesquels on arrive à connecter directement deux cerveaux. On voit bien que c'est bizarre, en mettant des électrodes dans un cerveau avec un autre animal. Donc déjà, on peut poser des questions d'éthique pour le faire chez l'animal, mais a fortiori chez l'homme. Donc on n'est pas tout à fait prêt à ce genre de choses chez l'homme.
Mais qu'est-ce que ça produit quand on connecte deux cerveaux? On peut échanger sans se parler?
Oui, on peut leur faire collaborer beaucoup plus rapidement. Et par exemple, les militaires américains sont en train de vouloir faire ce genre de choses pour que les soldats sur le champ de bataille puissent coopérer plus efficacement tout en obéissant aux ordres qui viennent du quartier général.
Ça, c'est pas de la science-fiction, ce sont des recherches.
Ce sont des recherches en train de se faire. Ça marche. C'est pas comme ça sur le champ de bataille aujourd'hui. Mais les recherches sont actuellement financées par la DARPA qui finance les recherches militaires américaines.
Donc, communiquer de cerveau à cerveau. En même temps, quand on le répète, ça fait totalement peur. Ce que vous dites aussi, c'est que dans ce monde où on pourra augmenter nos capacités humaines grâce aux machines, et déjà peut-être aujourd'hui, un certain nombre de connaissances ou un certain nombre de savoirs ou un certain nombre de compétences n'auront plus lieu d'être. Vous dites mémoriser. À quoi bon si des machines le font à notre place? Est-ce que c'est vrai?
Je pense qu'en fait, si on est sélectionné, en tout cas moi j'ai été sélectionné comme ça dans mes études, essentiellement sur la capacité à mémoriser et à calculer, ce qui est sûr c'est que les machines mémorisent et calculent mieux que nous. Ça ne veut pas dire qu'on n'a plus besoin de mémoriser quoi que ce soit et de jamais calculer, mais ça veut dire qu'il va peut-être falloir développer des capacités que n'ont pas les machines. et qui ne sont pas juste mémorisées et calculées. Parce qu'en fait, les humains sont fort heureusement doués naturellement de plein d'autres capacités, mais elles ne sont pas toujours développées dans le contexte scolaire. Et c'est dommage, je pense, parce que typiquement, apprendre à coopérer, faire preuve de compassion, de créativité, chercher ce qui fait du sens pour soi, ce qui fait du sens pour les autres, ce qui est utile pour la planète, ce genre de choses, les machines ne savent absolument pas le faire. Elles savent nous battre au go, aux échecs ou à plein d'activités, mais elles ne savent même pas qu'elles jouent au go et elles ne savent même pas ce que ça veut dire pour nous et encore moins pour elles.
Apprendre pour un être humain, c'est avoir conscience d'apprendre, Elena Pasquinelli ?
C'est beaucoup de choses. On apprend aussi sans avoir conscience d'apprendre. Ça dépend de ce qu'on a à apprendre. On apprend dès la naissance. On apprend aussi parce qu'on a des savoirs. Et on apprend grâce à notre mémoire. On arrive au monde comme des êtres. On le savait pas il y a 30 ans. Hein. On a changé beaucoup d'images qui ont déjà beaucoup de connaissances stockées dans leur mémoire historique, évolutive, et qui les réexploitent toute la vie. Et ce qu'on sait aujourd'hui aussi sur nos capacités d'apprendre, c'est qu'en réalité, elles dépendent beaucoup aussi de cette capacité d'apprendre des contenus. On dissocie un peu trop souvent entre nos capacités de raisonnement et nos capacités de stocker quelque chose dans la mémoire. Certes, François Taddeï, il a tout à fait raison, si on se limite à stocker des concepts en mémoire, à les mettre quelque part comme dans une urne, disons comme ça, protégés, bon, ça sert pas à grand chose. Mais on se rend compte que pour bien raisonner en physique, bien raisonner en science, il ne suffit pas d'apprendre des heuristiques, comme certaines intelligences artificielles le faisaient dans les années 60. On a besoin aussi, en même temps, d'exercer ces capacités de raisonnement sur des contenus. C'est un entrecroisement complexe, celui qui se fait dans notre cerveau, entre différents contenus, la manière dont nous avons appris, introjecté, et la manière dont nous arrivons à faire des inférences, à les lier de nouveau à des nouveaux concepts.
C'est un processus collaboratif, l'apprentissage. François Taddeï, vous appuyez sur cette spécificité aussi humaine, et pas seulement humaine, qu'est l'apprentissage collectif, les uns avec les autres, dans votre ouvrage.
En fait, les sciences cognitives, et Elena Pasquinelli pourrait le détailler, nous montrent que, en fait, on a plein de biais cognitifs. Et donc, individuellement, on a pas mal de limites à notre intelligence.
Alors, un biais cognitif, on peut répéter ce que c'est ?
Elena, un exemple. C'est une influence qui nous guide vers certaines interprétations plus que d'autres, comme des illusions qui nous amènent à voir des lignes comme étant plus longues ou plus courtes, indépendamment de leur réalité, parce que notre cerveau les interprète de cette manière. Ben, on fait la même chose avec notre raisonnement. Alors, par exemple, on a tendance, un biais cognitif qui est très répandu chez nous tous, philosophes, scientifiques et journalistes, mais personnes communes, c'est le biais de confirmation, par exemple. On a tendance tous un peu à sélectionner et évaluer d'une manière différente les informations, les connaissances qui vont dans notre direction. Si elles nous donnent raison, on a tendance à les trouver plus intelligentes, plus convaincantes quand même, que des opinions et des idées qui nous donneraient tort. Travailler avec les autres semble être, selon certaines recherches, travailler en groupe, une manière de sortir du biais de confirmation.
Exactement. Hein. La démarche scientifique, elle fonctionne parce que on a des collectifs de scientifiques qui évaluent ce que chacun a fait. Et en fait, ce genre de démarche, on peut exactement les appliquer très jeune. Et on le fait, nous, dans le programme des Saventuriers, la main à la pâte le fait à sa manière. Je pense que c'est assez fondamental de se rendre compte que collectivement, on est capable de faire des choses qu'on ne saurait pas faire seul. Et ça va être très utile pour vivre en société, ça va être très utile pour travailler, ça va être très utile pour l'ensemble des défis qu'on a à relever collectivement, parce que une partie des défis qui sont devant nous, les défis écologiques, climatiques, environnementaux, économiques et politiques, sont des défis pour lesquels on n'a pas la solution. Donc il va falloir qu'on invente des solutions et qu'on s'adapte collectivement à des transformations technologiques majeures, à tout un tas de défis. Et il va falloir apprendre à mobiliser l'intelligence collective non seulement autour d'une table, ce qui est déjà pas si simple, mais ça s'apprend, et également, idéalement, à l'échelle planétaire. Et ça, il va falloir qu'on invente des manières de le faire, parce qu'en dehors de Wikipédia, on connaît très peu d'exemples qui passent à l'échelle en utilisant le numérique.
Les questions d'ordre pédagogique se bousculent dans ma tête, je vais les prendre les unes après les autres. Les aventuriers, on a parlé hein, de la main à la pâte, c'est l'expérimentation. Les aventuriers, c'est apprendre par la recherche, et ce, dès l'école élémentaire, dans des classes avec le professeur, on va faire des recherches et peut-être même trouver, faire des découvertes inédites. Ça, c'est une réponse au défi de l'apprentissage contemporain. François Tadei, pourquoi ?
Pourquoi ? Parce qu'en fait, les sciences cognitives, comme Alison Gopnik à Berkeley, ont montré que les bébés sont nés chercheurs. C'est-à-dire que les bébés sont capables d'avoir des hypothèses sur le monde, de les tester en expérimentant. Ils sont capables de faire des erreurs comme tout le monde. Ils sont capables de réviser leurs hypothèses à partir de leurs résultats, comme idéalement tout le monde. Mais et donc, ils ont ce genre de choses de manière assez innée. Le pic de questionnement est à 4 ans. Et d'ailleurs, on a des aventuriers dès la maternelle. Ça marche aussi très bien jusqu'au lycée. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que ce questionnement, la question, c'est comment on passe d'un questionnement enfantin à un questionnement scientifique. Et est-ce que les méthodes venant de la recherche, il n'y a pas qu'une seule méthode, parce que les différentes disciplines ont différentes méthodes, les différentes méthodes issues de la recherche peuvent permettre de détailler ce questionnement et d'apprendre au passage à développer l'esprit critique, la coopération, la créativité, chercher des sources, s'assurer que ces sources sont fondées, faire des expériences, s'assurer qu'on a des résultats qui sont conformes ou pas, et s'ils ne sont pas conformes à nos hypothèses, comment est-ce qu'on révise nos hypothèses. Donc cette démarche-là, face à un monde qui est toujours plus inconnu, parce qu'il est très difficile de prédire ce que demain sera fait, et donc il faut arriver à inventer ça en développant cette capacité à la fois analyser de manière critique ce qui existe et de manière créative penser ce qui n'existe pas encore mais qui mériterait d'exister.
Quel type de recherche, de science peuvent être mobilisés dans ce type de programme? Est-ce que ce sont seulement les sciences dites dures?
Non, on a des aventuriers qui font de l'histoire, on a des aventuriers qui font de la sociologie, des aventuriers qui font du droit. Donc ça marche en sciences cognitives, ça marche sur le climat, ça marche dans pratiquement tous les domaines où on l'a testé jusqu'à maintenant. Ce qui compte, c'est de trouver des mentors bienveillants qui sont des chercheurs spécialistes d'un domaine et qui acceptent d'accompagner le questionnement d'une classe, non pas pour leur apporter des réponses, mais pour leur apporter des méthodologies qui vont permettre aux enfants de poser leurs questions, d'affiner leurs questionnements et d'aller toujours plus loin jusqu'aux frontières des connaissances.
Là, vous parlez de l'école, mais dans cet ouvrage, vous utilisez une expression, c'est celle de la société apprenante. Qu'est-ce qu'une société apprenante ? Pour nos auditeurs, qui dépasserait l'école et même les médias, si on compte comme institution d'apprentissage bien nos radios, éventuellement les chaînes de télévision ou les institutions culturelles. François Tadei.
Alors pour moi, une société apprenante, c'est un mot qui vient de Joseph Stiglitz, qui a pris Nobel d'économie et qui pense que c'est la manière dont les sociétés peuvent se transformer en profondeur pour s'adapter aux changements en cours. Et de manière un peu plus pragmatique, ce que ça peut vouloir dire, c'est une société dans laquelle, quand quelqu'un apprend et innove, quelqu'un d'autre va pouvoir apprendre et innover plus facilement parce qu'on s'organise pour maximiser les échanges et la documentation de chacun des apprentissages et de chacune des innovations qu'on a pu faire. Et donc plutôt que d'éviter que les élèves se parlent en classe parce qu'ils n'ont pas le droit de copier, on leur dit: au contraire, on vous invite à coopérer pour que quand l'un d'entre vous a réussi quelque chose, on s'assure que les autres vont être aussi capables de le faire parce qu'on va partager ce qu'on a fait. Et vous allez avancer en parallèle et vous allez mutualiser vos apprentissages. Et ça, on peut le faire à l'échelle d'une classe, on peut le faire à l'échelle d'un pays, on peut le faire à l'échelle d'une planète. Typiquement, quand un scientifique apprend quelque chose, il le publie pour que d'autres scientifiques puissent s'en emparer. Et aujourd'hui, avec le web, on peut faire ça à des échelles sans précédent et on peut faciliter des innovations qui viennent d'un endroit de la planète peuvent instantanément être partagé avec d'autres personnes ailleurs qui vont pouvoir s'en servir pour aller plus loin. Et on va refaire une des choses essentielles de la démarche scientifique qui est que pour voir loin, on doit gravir des épaules de géants et partir de ce qui a déjà été réalisé par les autres pour apporter à son tour sa pierre.
Évidemment, je pense qu'on a tous pensé en vous écoutant aux réseaux sociaux et à la manière dont on communique aujourd'hui à ces fameuses bulles dont on a vu qu'elles comptaient aussi dans les processus électoraux et puis l'accès à l'information, le fait d'être plus ou moins éclairé sur la réalité du monde. Est-ce qu'on a vraiment l'impression que la diffusion du savoir augmente à l'heure où, par exemple, le réchauffement climatique est extrêmement contesté? D'ailleurs, il l'est même par des chefs d'État. Elena Pasquinelli.
Absolument vrai. Je pense qu'il y a, deux choses importantes dans ce discours. L'une, c'est qu'on est une société apprenante. François Tadei est sûrement d'accord. d'accord avec moi sur ça, parce qu'on a une vision de biologiste. Au fond, derrière, on est une société apprenante depuis toujours. C'est-à-dire que l'être humain est un animal qui est caractérisé, entre autres choses, mais par cet apprentissage social. On apprend avec les autres, et on apprend des autres depuis longtemps dans notre histoire évolutive. On n'a même pas eu besoin d'inventer justement les nouvelles technologies pour sentir ce besoin d'imiter les autres. On a des capacités d'imitation. Je vous regarde, je vais imiter vos gestes, je vais apprendre par vos gestes. On a ces capacités depuis toujours. Elles sont à la fois exploitées par les nouvelles technologies et à la fois, quelquefois, mises à mal aussi par certaines des nouvelles technologies. Au fond, c'est un peu... Des fois, c'est surprenant d'y penser, mais on a un cerveau qui est vieux et qui se trouve face à ce monde que François Taddeï était en train de décrire, ce monde qui évolue très vite, avec des technologies qui évoluent de plus en plus vite, mais qui vont se brancher, physiquement ou pas, sur ce cerveau ancien. Donc, quand on se trouve au milieu d'un réseau social facilité, on a tendance, par exemple, à lui prêter une attention extrême. Un téléphone avec Facebook ou Twitter posé à côté de moi pendant que je cherche à écrire un livre ou apprendre quelque chose, c'est une source de distraction énorme. Pas parce qu'il l'a cherché, parce que j'ai été changée, parce que ce monde technologique m'a recablée, mais au contraire, à cause de mon cerveau ancien, à cause de ce cerveau social qui trouve l'information sociale qui se cache derrière Twitter comme étant tellement intéressante que j'arrive pas à vraiment lui résister.
Mais ça ne met pas à mal nos capacités de création, vous l'avez dit, vous n'arrivez pas à écrire, de réflexion aussi et l'énergie que nous pouvons mettre dans l'acte d'apprendre ou que les enfants peuvent investir dans l'acte d'apprendre. La semaine dernière, Philippe Mérieux, qui est chercheur en sciences de l'éducation au départ, a prononcé une phrase qui nous a tous saisis. Aujourd'hui, les enfants veulent savoir, apprendre, finalement, ça les intéresse moins.
Le fait d'être si entouré, c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération, et pas tout seul, mais prendre en considération par rapport à nos capacités. Quelles sont nos capacités, effectivement, de réagir d'une façon positive, d'exploiter de façon sage tous ces outils qui se mettent à notre disposition. Quelles sont les limites de notre attention, par exemple, qu'on ne peut pas en réalité modifier, sauf dans un futur où les technologies auront un autre rôle, mais disons pour aujourd'hui. Donc, on risque effectivement d'être mis à mal. Vous avez parlé avant des bulles, par exemple, dans lesquelles on risque des fois de se renfermer parce que, à cause de notre biais de confirmation, on a tendance à rechercher l'information de plus en plus disponible et à rechercher l'information qui nous confirme dans nos idées, et on a du mal à en sortir. Et on est tellement envahi des fois d'informations qui est chose magnifique, mais qui en même temps est quelque chose aussi qui nous dépasse. Et quand on est tellement envahi, on peut avoir du mal à retrouver des fils. Retrouver ce qui est réellement intéressant, c'est qu'on cherchait. Il faut apprendre. Je ne pense pas qu'il y ait d'autres solutions magiques, et l'apprentissage est toujours un peu magique, mais il faut apprendre à raisonner avec ces défis, à analyser les informations qui nous sont fournies, et ceci grâce aussi à des apprentissages de connaissances qui vont nous permettre, des contenus qui vont nous permettre d'analyser d'autres contenus qui nous sont proposés et donc de mieux les appréhender, de mieux les juger, évaluer, peser par rapport aux contenus qui nous sont donnés déjà.
Des connaissances pour nourrir l'esprit critique devant la connaissance, une forme de cercle vertueux. François Taddeï, comment entretenir la flamme de l'apprentissage dans un monde où les savoirs sont si disponibles?
Je pense que la curiosité est probablement le bon point de départ. Et on est naturellement curieux, et ce qu'il faut, c'est entretenir cette curiosité, cette capacité à se questionner, et cette capacité à questionner, y compris les boîtes noires qui nous entourent, donc les technologies, comprendre en fait comment est-ce qu'elles nous manipulent, parce qu'elles ont été conçues pour nous manipuler, pour manipuler notre attention en particulier, pour créer des addictions. C'est pas la première fois que des industriels créent des systèmes addictifs. C'est le cas du tabac, c'est le cas de la pornographie, de l'alcool et du sucré, du salé, du gras, etc. dans le monde de l'agroalimentaire. Donc il faut avoir conscience de nos propres biais, qui sont manipulés par un certain nombre d'acteurs comme ceux que je viens d'évoquer. Et il faut aussi avoir conscience donc du fait que ces technologies, on peut comprendre et essayer d'ouvrir ces boîtes noires. Donc on a à la fois nos boîtes noires dans le cerveau et il y a des boîtes noires numériques. Et il faut comprendre comment elles fonctionnent et pour éventuellement développer mieux son esprit critique, mais être aussi capable de les utiliser pour faire des choses utiles. Parce qu'évidemment, ça peut permettre de faire des choses utiles. Mais encore faut-il se poser des questions de qu'est-ce qui est utile ? Qu'est-ce qui fait du sens pour nous ? Et ça, il faut le développer. Et je pense que quand une bonne partie des élèves, leur curiosité s'éteint quand ils ne voient pas le sens de ce qu'ils font. Donc je pense qu'il faut les aider à comprendre le monde qui les entoure.
Donc c'est à l'école.
C'est évidemment, l'école a un rôle fondamental. La famille peut être un lieu intéressant, mais l'école est le lieu de construction sociale, nationale et collective qui peut permettre de faire quelque chose pour l'ensemble d'une génération.
France Culture, Être et Savoir, Louise Touré.
Les bonnes études, les bonnes rencontres, la vie est rude, on joue la montre, souvent c'est cuit. Mais on espère le bon QI, le bon salaire, le bon chemin, les bonnes godasses. On se retient dans la mélasse, les bonnes démarches, le bon public. Monter les marches aux ascédiques. Les bonnes écoles, les bonnes écoles. Les bons voyages, les bonnes lectures. Les enfants sages, en devanture. La vie facile, les bons combats. Le vote utile, les bras en croix et les bons coups. Oh, excuse-moi, sans doute ne suis-je pas de cela. Les bons produits, les bonnes dérives, c'est le cambouis qui nous lessive. Les bonnes écoles, les bonnes écoles, les bonnes écoles, les bonnes écoles. Le bon cheval, tenter sa chance, mais on s'installe sans résistance dans l'écurie la plus pourrie. Qu'est-ce qui nous manque? C'est pas l'envie. Qu'est-ce qui nous manque? C'est pas l'envie. Qu'est-ce qui nous manque? C'est pas l'envie.
Elle est émouvante, hein, cette chanson de Florent Marché. Elle dit tellement de choses sur l'éducation. Florent Marché, on le retrouve avec Sophie Bobert dans la leçon de choses en fin d'émission. Alors, c'est pas exactement la question des bonnes écoles, hein, qu'on se pose, mais celle de l'éducation du futur. À quoi va-t-elle ressembler dans un monde qui change beaucoup sous l'impulsion d'avancées scientifiques qui nous font à la fois mieux connaître le fonctionnement de notre manière d'apprendre, mais qui vont aussi changer le monde, des possibilités, on en a parlé, de communiquer plus rapidement, y compris de cerveau à cerveau. Alors là, on croit qu'on est dans la science-fiction, mais apparemment, ça va arriver très vite, n'est-ce pas, François Taddeï ? Alors, la question que je me pose en vous écoutant tous les deux et en vous lisant, c'est pourquoi on a tant mis de côté cette expression « apprendre à apprendre » qui a été relégué du côté de ce qu'on appelle le socioconstructivisme, qui aurait été lui-même relégué au plan des vieilles idoles de la pédagogie qu'il aurait fallu oublier pour revenir aux fondamentaux, ça ce sont des débats scolaires, alors que finalement ce que montre la science, c'est que, je parlais de conscience d'apprendre, mais savoir apprendre à apprendre, c'est en quelque sorte la clé pour l'éducation du futur. François Taddeï.
Oui, je pense que Elena le détaillera pour l'individu, et je pense que c'est très important qu'un individu apprenne à apprendre. Mais je pense qu'on a aussi besoin d'apprendre à apprendre collectivement. Et ça, c'est plus complexe, parce que c'est un sujet où on a plus ou moins appris à le faire au coin du feu depuis la nuit des temps, mais aujourd'hui, on peut le faire à l'échelle planétaire. Et en même temps, on voit bien que les technologies dont on dispose n'ont pas été conçues pour faciliter nos apprentissages individuels et collectifs. Elles ont été conçues pour nous vendre de la pub et nous manipuler, et c'est pour ça qu'elles posent tout un tas de problèmes. Donc il faut à la fois être critique par rapport aux technologies qui existent aujourd'hui, mais il faut qu'on essaye collectivement de créer des alternatives qui nous permettent de faire ensemble des choses qu'on ne saurait pas faire seul pour résoudre une bonne partie des défis auxquels on est confronté, y compris les apprentissages individuels. Mais je pense qu'il faut arriver à s'interroger sur ce apprendre à apprendre pour un individu. Il faut être très réflexif et développer la réflexivité. Je pense que c'est souvent, beaucoup de recherches le montrent, une des meilleures manières de progresser de manière méta, c'est-à-dire dans plein de domaines différents. Une fois qu'on a appris à le faire dans un domaine, on va pouvoir transposer ça dans beaucoup d'autres. Mais si on est capable de le faire individuellement, comment est-ce qu'on peut apprendre à le faire collectivement? Dans un petit groupe, dans un grand groupe et éventuellement à l'échelle planétaire.
Quand on lui parle de l'école du futur, le ministre de l'Éducation répond « Je vois une école où on travaille les fondamentaux, mais où on va aussi faire du sport et avoir une éducation culturelle. » D'ailleurs, un grand plan pour la culture sera présenté demain, lundi. On dirait qu'on a peur de formuler les enjeux que vous formulez au sein de l'éducation nationale ou même pour les familles, que finalement, aujourd'hui, quand on parle d'éducation, les réflexes sont plutôt conservateurs.
En fait, c'est tellement plus facile d'être conservateur. Parce que c'est évident que si les parents et les enfants ont la même école, alors les parents sont rassurés parce qu'ils savent ce que font leurs enfants et ils vont pouvoir les aider. Et donc c'est un côté rassurant par défaut. Et c'est pour ça que pendant très longtemps, le système éducatif a évolué moins vite qu'une bonne partie de la société. Mais aujourd'hui, où la société est en train de connaître des changements accélérés, il va falloir que d'une manière ou d'une autre, si on veut préparer nos enfants et même les étudiants, on pourrait parler des étudiants, aux métiers de demain, comme les métiers de demain ne sont pas forcément ceux d'hier, il va falloir les former différemment. Et ça se trouve, c'est eux-mêmes qu'il va falloir qu'ils inventent leur propre métier. Et donc, être formé pour inventer son métier, c'est pas la même chose que d'être formé pour reprendre le métier de papa et de son grand-père.
Mais ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter d'apprendre, je sais pas, les tables de multiplication ou lire.
Non, mais par exemple, on peut s'interroger même sur la table de multiplication ou sur les mathématiques plus généralement. Est-ce qu'on doit apprendre les mathématiques de la même manière avec et sans ordinateur ? C'est-à-dire que mes enfants sont en train de faire des filières très proches de celles que j'ai pu faire, eh bien, ils sont en train d'avoir exactement le même programme de maths que celui que j'ai eu il y a 30 ans, et c'était le cas il y a 60 ans. Donc, il y a quand même un problème. Est-ce que on ne doit pas enseigner une partie de ces matières, qui sont très importantes, un peu différemment? Et je pense qu'il faut à minima se poser la question. Reproduire le système à l'identique, c'est ce qu'on fait par défaut. Moi, ce que je demande, c'est qu'au minima, on s'interroge sur ce qu'il faut apprendre, et y compris sur les aspects éthiques de tout ça. Par exemple, aujourd'hui, dans beaucoup d'écoles d'ingénieurs, quand ça a été mesuré, la réflexion éthique tend à diminuer avec le nombre d'années qu'on passe dans une école d'ingénieurs. C'est quand même problématique pour moi.
Ah oui, je pense pour beaucoup de gens. vous appelez de vos voeux cette réflexion éthique, Elena Pasquinelli, à travers ce manuel dont j'ai déjà un peu parlé, Esprit scientifique, esprit critique. Alors, vous n'êtes pas la seule auteure, il y a également Mathieu Farina et Gabriel Zimmermann. Une réflexion qui passe par la science, parce qu'en fait, ça permet de donner des exemples très précis. Alors, j'ai quand même essayé de faire quelques exercices. Par exemple, il y a quelque chose qui m'a semblé très pertinent pour aujourd'hui, c'est montrer que toutes les corrélations n'en sont pas, ne se valent pas, qu'on est souvent induit en erreur. Et d'ailleurs, les confusions abondent, hein, même chez mes confrères journalistes, y compris dans la presse. Donnez-nous des exemples et expliquez-nous pourquoi il faut développer cet esprit critique scientifique.
Il faut déculpabiliser, hein. On a tous, on tombe tous, c'est un biais, hein, celui qui nous fait prendre des corrélations pour des relations de type causal. C'est l'un des aspects qu'on a identifié comme fondamentaux pour éduquer justement cet esprit critique d'aujourd'hui, de demain, de hier. On est toujours tombé dans ces genres d'erreurs. Le fait d'entendre quelqu'un nous dire mais tu sais, un chat noir est passé devant mes jambes et je suis tombé. Et si vous l'entendez ce récit trois fois, une superstition est vite née. C'est-à-dire qu'un pattern qui n'en est même pas, parce qu'il est basé sur trop peu de cas, il devient en plus quelque chose qui est interprété comme une relation causale. Des fois, ça fait rire, comme dans les cas du chat noir. Des fois, ça ne fait pas rire du tout, parce qu'on peut tomber dans des erreurs qui sont assez tragiques. Je vais faire un exemple tragique. C'est celui qui nous a fait croire pendant des années, à certains d'entre nous, qu'il y avait une relation causale entre certains vaccins, par exemple, et des symptômes d'autisme, parce qu'un médecin qui n'en est plus, parce qu'il a été rayé de l'ordre médical, avait montré une corrélation entre des cas d'autisme et le fait d'être vacciné dans la période qui précède immédiatement. Bon, le cas, en plus, était faux, il y avait des manipulations, etc. Mais ce cas parlait immédiatement à notre esprit, c'est ça qui est intéressant. Le fait de dire que cet événement s'est produit à côté de l'autre était immédiatement, sans même besoin pour le médecin en question de trop forcer l'interprétation, il était directement interprété par notre cerveau, par nous-mêmes, comme une relation causale. Donc c'est très facile de faire ce type d'erreur. Si je vous dis, par exemple, c'est le cas de l'une des activités du manuel pédagogique que vous avez entre les mains, qu'il y a une corrélation négative entre la taille des pieds et le nombre de fautes en grammaire, c'est-à-dire que plus vous avez des gros pieds et moins vous faites d'erreurs d'orthographe à la dictée. Si vous le dites, ça fait rire, ça devrait faire réfléchir un peu, parce que voilà cette corrélation, comment elle s'explique? Ben, elle s'explique par une variable cachée qui est celle de l'âge pour les enfants. On grandit les pieds, mais on fait aussi des années d'école qui nous amènent à faire moins d'erreurs. On invite les enfants à l'école à travailler, par exemple, c'est une activité, à partir de ces genres de petits exemples, de rechercher autour d'eux d'autres exemples dans les sciences, où des corrélations peuvent donner l'impression d'une causalité, de chercher dans les sciences, comment font les scientifiques comme François Taddeï, pour se garantir de ne pas se tromper de la sorte. Parce que ce sont des êtres humains, François Taddeï, vous me confirmez?
Oui.
Ce sont des êtres humains qui ont, comme tout le monde, de premier abord tendance à se tromper et à tomber dans ce biais de corrélation perçue comme une causalité. Mais eux, ils ont une arme importante, même ils ont une boîte à outils importante. C'est ce qu'on cherche à faire passer comme message à travers ce livre, à travers ces activités. Ils ont une boîte à outils de méthodes. Et ces méthodes leur permettent d'identifier le biais en question, l'erreur en question, et de mettre à côté une méthode expérimentale dans ce cas, des groupes de contrôle, des répétitions de l'expérience qui fait en sorte qu'on arrive à sortir de ce type d'erreur. C'est ça qu'on cherche à apporter aux enfants, aux élèves, ces méthodes qui ne sont pas importantes seulement pour le scientifique, mais qui sont importantes pour nous dans la vie de tous les jours, parce que comprendre ces méthodes inventées par l'homme nous permet de mettre sous contrôle ces biais qui nous amènent tous les jours en erreur sans qu'on s'en aperçoive. Donc d'un côté, prendre conscience, comme le disait François Taddeï, de ses biais est fondamental, se connaître, ouvrir la boîte noire, j'adore cette expression, et de l'autre côté, ouvrir la boîte à outils de la science pour armer notre cognition si riche dès la naissance, hein, comme vous le disiez, dès la naissance, pour la rendre encore plus puissante, pour permettre de faire ce saut toujours plus haut, vers un Burj Khalif des connaissances qui nous est possible seulement de cette manière.
Elena Pasquinelli, vous dites « nous », pour désigner tout le monde, à l'heure où même la communauté scientifique véhicule des fausses informations. Alors, c'est pas la communauté scientifique, mais par exemple des parutions. On sait que la fausse science pullule parce que les parutions sont acceptées dans des revues pourtant reconnues pour tout un tas de raisons. La fausse science, c'est aussi ce qui va peut-être freiner les apprentissages au 21e siècle. On sait que c'est un grand débat aujourd'hui et un grand danger, François Taddeï.
Oui, tout à fait. Je pense qu'il faut développer cette capacité à l'esprit critique et à la reproductibilité. Donc si par exemple il y a une publication sur laquelle on s'interroge, et on devrait s'interroger sur beaucoup d'entre elles de toutes les manières, surtout si on est un scientifique du domaine.
Alors je prends un exemple, par exemple les gens désordonnés sont plus intelligents, une étude de telle université dont on n'a pas forcément entendu parler dans tel état des États-Unis montre que les gens dont le bureau est complètement désordonné avec des papiers partout comme on s'imagine être celui d'un scientifique sont plus créatifs.
Alors, on peut avoir envie d'y croire si on est désordonné ou de pas y croire si on est ordonné. Ça, c'est les biais.
C'est marrant que je me souvienne d'ailleurs de cette expérience.
Mais en fait, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut essayer de retester cette hypothèse au-delà de son cas particulier. Parce que son cas particulier, c'est un N égale 1, d'accord? Donc, les scientifiques aiment avoir des statistiques sur des populations plus importantes pour essayer de voir. Et donc, je pense que ce qui est intéressant, par exemple, si on prend cette étude-là, est-ce qu'on a une mesure objective de la créativité, déjà? Est-ce qu'on a une mesure objective de la manière dont les bureaux sont organisés? Est-ce qu'il y a vraiment une relation systématique entre les deux? Et est-ce que cette relation est due à une variable cachée? Ou est-ce qu'elle est due à une corrélation complètement due à hasard? Ou est-ce qu'il y a quelque chose pour de vrai derrière? Et comment est-ce qu'on peut le tester? C'est ça la démarche scientifique. C'est pas forcément d'accepter la publication qui semble conforter le fait qu'on est créatif.
Donc le doute, un doute scientifique, ma réponse étant... En fait, c'est pas du désordre, mais c'est une autre question. Plus sérieusement, l'éducation, ça fonctionne évidemment avec de l'argent. On a appris cette semaine que Jeff Bezos, qui est le patron d'Amazon et qui, paraît-il, ne paye pas très bien ses employés, va financer des projets éducatifs à hauteur de 2 milliards de dollars. Voilà, c'est un exemple. Cet été, on apprenait qu'un champion de basket, LeBron James, aux États-Unis, a ouvert une école dans sa ville, une école gratuite. Est-ce qu'il faut qu'on compte sur des philanthropes pour financer l'éducation de demain? Et je pose la question aussi parce que vous-même, dans vos activités, vous dépendez de financements, de fondations, d'argent privé. Comment on s'assure, et parce que vous décrivez aussi, François Taddeï, vous appelez de vos voeux un service public de... Alors comment vous l'appelez? De l'apprendre?
Oui, je pense qu'il y a besoin de plus de service public de l'apprendre, de la société apprenante. Je pense que, en fait, assez fondamentalement, la recherche biomédicale, par exemple, bénéficie de différents types de financements. Il y a des financements publics, il y a des financements philanthropiques, et il y a des financements de l'entreprise pharmaceutique. Et ça peut être intéressant d'être financé par l'entreprise pharmaceutique, mais ça peut créer tout un tas de biais. Et donc, il faut aussi un financement indépendant, qui est un financement public. Et en même temps, c'est très bien si, par exemple, il y a beaucoup de gens qui font des donations au Téléthon ou sur telle ou telle grande cause médicale qui leur importe. Mais je pense qu'il faudrait la même chose pour le futur de l'apprendre. Aujourd'hui, il y a une différentielle d'un facteur 30 entre l'argent qu'on investit pour faire de la recherche biomédicale et l'argent qu'on investit pour faire de la recherche en sciences de l'éducation et sur les sciences de l'apprendre plus généralement, puisqu'on apprend pas simplement dans un contexte scolaire. Donc je pense qu'on a absolument besoin d'investir, et cet investissement peut venir de la générosité publique, il peut venir de collectifs qui ont envie de se mobiliser, il peut venir de grands philanthropes, ou il peut venir...
Mais est-ce vraiment de la philanthropie quand Jeff Bezos dit « bah oui, parce qu'il faut former les consommateurs de demain ?» Parce qu'il y a ça aussi dans son discours.
C'est toujours un risque. Donc, un philanthrope a-t-il une intention cachée ou pas? On peut se poser la question de manière un peu systématique. Mais quand des gens donnent à la Ligue contre le cancer, c'est qu'ils se sentent concernés par le sujet. Parce que éventuellement quelqu'un parmi leurs proches a été atteint, ou parce qu'ils ont vu un reportage au Téléthon et ils ont décidé de financer la recherche pour la myopathie. Mais je pense que si aujourd'hui je ne comprends même pas qu'il n'y ait pas plus de générosité publique pour faire progresser la recherche sur ce que c'est qu'apprendre. Parce qu'on est tous concernés. Donc, en tant que parent, on pourrait avoir envie de financer ce genre de recherche. En tant que grand-parent, en tant que, quel que soit son statut, on peut avoir envie de faire progresser ce genre de choses pour soi et puis pour les générations à venir.
N'y a-t-il pas également un problème de confiance? Et là, Pasquinelli, l'école publique, parfois parce qu'elle est pauvre aussi, et elle est particulièrement dans les endroits où les gens le sont, pauvre, peut avoir des résultats décevants, et c'est aussi le cas en France. Ça rompt la confiance, et peut-être est-on tenté parfois de se tourner vers d'autres acteurs. En quoi elle est importante, cette confiance dans l'institution? Votre regard de philosophe?
Il faut, à mon avis, il faut aussi mettre un mot optimiste derrière tout ça. On est très habitué à entendre les résultats PISA et à se désespérer des résultats de l'école dans les évaluations internationales. L'école est aujourd'hui, l'éducation est aujourd'hui la technologie la plus puissante qu'on ait trouvée pour améliorer à la fois l'intelligence individuelle et collective et donc aussi la richesse des pays. Donc, l'école fonctionne de façon générale. Le fait d'aller à l'école, que tout le monde puisse aller à l'école, avoir une école de masse, est la clé pour le développement de nos démocraties, pour la clé du développement de nos économies, etc. Donc, cette confiance doit être aussi une confiance dans le fait que l'institution fournit à toute la masse de la population d'un pays cette clé magique pour apprendre, où tout le monde est assis à côté, où il y a plein de problèmes, plein de limites, mais elle est fournie à tout le monde. Donc ça, c'est pour moi, c'est la première clé de la confiance et les premiers grands défis. Comment on fait en sorte de porter les innovations dont on a parlé, les innovations pédagogiques qui peuvent être apportées par la recherche, comment on fait pour les porter partout, chez tous les élèves, l'un après l'autre, chez tous les enfants, l'un après l'autre. Inventer l'élève, inventer l'école publique, l'école pour tous, c'était une manière de leur porter ce type de aide, ce type d'instrument. Donc on doit continuer à le faire, on doit le faire de manière de plus en plus puissante grâce aux outils que François Taddeï, il vient de nommer. On fait de la recherche pour l'éducation, pour comprendre quelles sont les méthodes les plus efficaces pour l'individu et pour tous les individus, c'est-à-dire pour la masse, mais aussi pour l'individualisation. Et on arrive à les porter dans les écoles où tous les enfants sont. C'est ce lieu magnifique où tous les enfants, indépendamment de leurs différences économiques, sont. Donc il faut arriver à faire ça. Je pense que là, une clé est une clé qui peut donner aussi plus de confiance aux parents et qui peut vraiment améliorer l'école au sens de aussi des résultats PISA, si on veut les mesurer à travers ce mètre, c'est la formation des enseignants. On va faire confiance à l'école quand on saura, et on fait déjà confiance à l'école, mais on va faire encore plus confiance à l'école en sachant que l'école est capable de se saisir des résultats de la recherche sur l'éducation, non seulement de les favoriser, de les produire, mais de s'en saisir. Et s'en saisir veut dire non seulement réformer les grands plans de l'éducation, mais les porter jusqu'à l'enfant. Pour les porter jusqu'à l'enfant, il faut les porter chez les enseignants qui sont là, qui sont les médiateurs, qui sont ces instruments magnifiques qui peuvent accompagner l'enfant dans son développement, lui permettre de développer ses capacités qui existent dès la naissance, sa curiosité, mais s'il est correctement formé pour le faire, pour travailler en groupe, lui avec ses collègues, et aider donc, par exemple, ses élèves à travailler en groupe. C'est un enjeu de formation.
Mais donc, François Taddeï, là aussi, il y a un enjeu de diffusion de la connaissance scientifique.
Ah, complètement. Et le développement professionnel des enseignants est un des facteurs limitants de la qualité d'un système éducatif.
Et est-ce qu'au-delà des enseignants, ça pourrait concerner une partie plus large de la société, les parents ?
Les parents et chacun d'entre nous. C'est-à-dire qu'on a, de toutes les manières, quel que soit son métier, il y a des chances pour que notre métier soit impacté par la révolution technologique et sociologique qu'on est en train de vivre. Et donc, il va falloir qu'on se réinvente tous, quel que soit notre métier. Et donc, cette capacité à apprendre, à se remettre en cause individuellement et collectivement, elle est juste essentielle.
Et si on refuse, si on veut être un exécutant, si on a pas envie, une fois passé sa scolarité, de se plonger dans cette société de la connaissance. Est-ce qu'il y a encore de la place pour nous ?
Je pense que ça sera toujours plus compliqué. Ce sera toujours plus compliqué parce que les choses qui sont très statiques...
Il n'y a plus de place pour les gens qui auraient juste des rôles d'exécution, les petits boulots.
Une exécution simple, il y a des chances qu'un robot le fasse très bien. Si c'est simple et répétitif, un robot le fera sans se fatiguer. Et s'il y a beaucoup de métiers de ce genre, alors il y a quelqu'un qui produira un robot pour gagner des parts de marché sur ce secteur-là. Donc je pense que c'est compliqué. Par contre, si on prend l'artisanat, qui peut être ultra créatif, ça, il y a peu de chances qu'un robot remplace la créativité humaine et la patte humaine dans des choses qui sont du sur-mesure. Et donc, je pense que ça va être intéressant, d'ailleurs. Si on fait des choses trop routinières, il y a des chances qu'on se fait remplacer par une machine, mais si on fait des choses très spécifiques, très personnelles, dans lesquelles on s'investit, je pense qu'il y aura une valeur ajoutée.
quant à la défense du ne rien faire, bon, je vois que ça ne passe pas très bien. Un plan pauvreté a été présenté cette semaine par Emmanuel Macron. Il a prononcé cette phrase qui est d'ailleurs inspirée de citations bien connues. Chaque enfant pauvre est en quelque sorte un Mozart qu'on assassine. Alors ça m'a posé plusieurs questions. Un sur la dimension sociale hein, de la pédagogie, des apprentissages, la mission aussi de l'école, hein, de évidemment combattre les inégalités. Mais aussi, à travers cette expression, Mozart, c'est le génie qu'on cherche chez chaque enfant. C'est ça, éduquer aujourd'hui, demain, c'est chercher le génie chez chaque enfant?
En tout cas, c'est développer les capacités de chacun. Le génie peut en faire partie, mais on sera pas tous Mozart, même si on est tous nés dans une famille de musiciens, de toutes les manières. Mais il y a mille et une manières de se réaliser. Et donc, être capable de trouver ce que les Japonais appellent son ikigai, c'est-à-dire ce qui nous correspond. Hein, c'est la raison de se lever le matin pour les Japonais. C'est aussi la manière de trouver son chemin de vie. Donc, cet ikigai, c'est l'intersection entre ce qu'on aime faire, ce qu'on sait faire, ou ce qu'on peut apprendre à faire quand on est un enfant, les ressources qu'on peut trouver pour le faire et ce dont le monde a besoin. Si on sait trouver quelque chose qui est à l'intersection de tout ça, alors on va développer ses talents, on va développer ses capacités et on va contribuer de manière positive au monde.
Tous ces questionnements font peser une responsabilité bien plus lourde sur les épaules des parents. Elena Pasquinelli, c'est aussi ce regard qu'on pose sur l'enfant, un enfant qui serait tellement doté qu'il faut absolument qu'il puisse exploiter tout de suite le maximum de ses capacités. On peut être amené à être considérablement déçu ou perdu ou désorienté avec ce type d'idée.
Et terrorisé aussi,
c'est un peu le sens de ma question.
Et terrorisé aussi en tant que parent. Ça, on l'entend moins, mais jusqu'à il y a quelques temps, il y avait ce mythe qui circulait, qui était très angoissant pour nous les parents. C'était celui des trois premières années. Il fallait tout faire. Au cours des trois premières années, après, les fenêtres d'apprentissage se fermaient une fois pour toutes. Donc, si les violons n'avaient pas été appris, un peu des mathématiques, si possible du cheval et d'autres petits apprentissages ici et là, c'était fini. Donc, grande angoisse pour les parents. Et heureusement, celui-ci est un mythe. En réalité, il y a bien sûr des prédispositions qui se déclenchent très précocement, des apprentissages qui sont importants à faire et parce qu'ils vont construire les savoirs futurs. Mais il n'y a pas de fenêtre face à laquelle, après, on serait fermé dehors ou dedans à raison de l'âge à laquelle on a commencé. N'empêche que les premières années de vie sont très importantes. C'est là qu'ils se font aussi beaucoup de différences sociales entre enfants et que certains parents sont capables, sont prêts, sont disponibles pour des raisons diverses et variées à fournir aux enfants ces connaissances, ces stimuli, des lectures du soir. Hein, je ne parle pas du violon ou des mathématiques avancées, mais des lectures du soir. C'est pas nécessairement non plus, malheureusement, pour tous les parents qui peuvent ne pas avoir la disponibilité de le faire. C'est là que je vois l'importance de l'école.
Elena Pasquinelli, vous publiez comment utiliser les écrans en famille, parce qu'être parent, c'est évidemment aussi s'éduquer. François Taddeï, apprendre au 21e siècle. Et puis on passe tout de suite à une autre leçon, la leçon de choses de Sophie Bobert. L'école et la boule au ventre, c'est une histoire de regard avec le chanteur Florent Marché.
Alors ça m'a beaucoup plu d'être un enfant à la campagne. Je suis toujours très attaché à la campagne, à la nature. En revanche, ça m'a pas du tout plu d'être un écolier. Pour moi, c'était vraiment synonyme de boule au ventre. J'ai des souvenirs très très marquants dès l'âge de 3 ans. Et puis, j'ai été au départ très très timide. J'ai eu l'impression pendant très longtemps d'être un élève médiocre. Et puis en fait, mes parents m'ont dit « Mais c'est pas vrai, pourquoi c'est bizarre que tu avais cette impression-là » Pendant très longtemps, j'ai l'impression d'être mauvais. Et puis après, en retombant sur des bulletins, effectivement, c'était pas le cas. Et dès le CP, ça partait très mal parce que je suis fils d'instit et comme beaucoup de fils d'instit, j'ai l'impression, en tout cas, on apprend à lire assez tôt. Et moi, à 5 ans, je savais lire. et j'arrive en CP sachant lire. Donc forcément, je m'emmerde. Mais surtout, je ne l'ai même pas verbalisé comme ça. Je me suis surtout dit que j'avais honte de savoir lire avant de rentrer au CP. Donc j'ai fait semblant vraiment d'apprendre comme les autres et toute l'année.
Mais en vérité, au fond de vous, vous vous sentiez déjà décalé.
J'avais sentiment de honte. Mais de toute façon, ce sentiment de honte, il m'a collé au masque dès l'école maternelle. J'avais le sentiment de ne pas être à ma place. Et puis après, ça s'est encore accentué. Et puis, comme on ne se sent pas à sa place, ben on finit par cultiver peut-être une sorte de différence, ou en tout cas l'accentuer, puis on a encore moins. Voilà.
C'est pour ça que vous avez signé en 2012 le livre CD Coquillette la mauviette. C'était pour réparer un sentiment d'injustice ou pour témoigner de cette prise de conscience politique que vous avez traversée enfant ?
Oui, bien sûr. Bah oui, c'est un peu le moteur de base. On parle beaucoup actuellement du harcèlement à l'école, mais j'ai l'impression qu'il a toujours existé. Moi, je me souviens des plus grands en arrivant au CP qui nous coinçaient dans un coin et nous faisait dit des choses absolument horribles, nous menaçait. En tout cas, je me sentais en sécurité, surtout au bord d'une rivière, dans un champ, une forêt, mais absolument pas ni sur la route de l'école, ni dans la cour de cette même école, avec très tôt des instits qui étaient très old school. J'ai vraiment connu l'école, je pense, des années 30. C'est-à-dire que il y avait des sortes de sévices comme ça, publics. Tout comme quand j'ai appris le piano, je recevais des coups de règle sur les doigts. Donc effectivement, moi, j'ai un peu fâché avec l'école, en fait.
Quels étaient les titres que vous aimiez jouer déjà, enfant ou adolescent?
Je crois que j'étais fasciné par les westerns. Il y avait quelque chose de... J'en ai regardé énormément. Et en fait, je jouais principalement à ça parce que j'avais vraiment l'impression, dans la campagne Mérichonne, d'être Far West. Je me souviens, je devais avoir peut-être 10 ans. Et le dernier jour des vacances d'été, j'étais au bord de la rivière avec ma canne à pêche et tout d'un coup... je regarde le ciel, il était d'un bleu profond, dense, et pas un nuage, rien. Il faisait encore très très chaud, et je me disais, demain je vais aller à l'école, demain tout ça ce sera fini, cette campagne, cette nature, je la regarderai de nouveau de loin. Et je trouvais ça terriblement injuste, je trouvais ça vraiment très violent, et au fond... Je comprends tous ces enfants de paysans quand on écoute des témoignages dans des campagnes et même encore aujourd'hui qui ne comprennent pas ce qu'ils foutent à l'école, qui se disent tiens, moi je suis fait pour être dans la nature, je suis fait pour être près des animaux. Et moi c'était ça, je n'avais pas compris. J'aimais apprendre, mais pas de cette façon. Après, là, j'ai dressé un tableau un peu noir de ma scolarité, mais ça l'était. Hein. J'ai souvent souffert à l'école, mais j'ai quand même eu des vraies, vraies rencontres. C'est peut-être ce qui m'a sauvé aussi. C'est très souvent les professeurs de français, mais j'ai eu particulièrement un professeur de français qui était passionné de théâtre et qui m'a fait vraiment découvrir la poésie. Et je connaissais par cœur les textes d'Apollinaire à l'âge de 14 ans. Et ça a changé ma vie.
Le podcast de la leçon de choses et même le podcast de toute l'émission sera disponible pour toute la vie sur vos internets. Les références des ouvrages cités aujourd'hui, Coquillette, la mauviette, mais aussi les livres de nos invités sont détaillés à la page d'Être et Savoir sur le site de France Culture. Sur France Culture, mardi, Guillaume Erner consacrera ses matins à la question de la laïcité à l'école, avec en particulier des enseignants. L'occasion de vous parler d'un petit ouvrage très accessible, publié sur le sujet par Bibliothèque Sans Frontières et Lafon. Question de laïcité et l'avant-propos est signé Patrick Veil. Je remercie toute l'équipe d'Être et Savoir, Emmanuel Morse-Duncan à la prise de son, Somanina qui réalise cette émission, Avril Ventura qui m'aide à la concevoir. À très bientôt sur France Culture ou en podcast. Donc très bonne soirée sur France Culture.